Nous avons fait un panel tout à l'heure sur penser l'Afrique en présence aussi bien des philosophes, des écrivains, des économistes. Et nous avons pensé que naturellement, le deuxième panel passerait par l'écriture. Donc, écrire l'Afrique aujourd'hui, c'est dans une certaine mesure aussi reconsidérer notre regard, le regard qu'on porte sur l'écrit venu du continent noir. Langue choisie ici est celui à la fois de la description de l'individu, parce qu'au fond, la littérature d'aujourd'hui est une démarcation de l'idéologie d'une littérature perçue sous les grands principes et les grands courants comme la négritude ou le panafricanisme, qui ne laissait pas forcément place au créateur, la latitude de parler de lui. Peut-être c'est l'esprit même de Sami Tiak qui va parler de l'individu étouffant sous le poids de la communauté. En cela, il est parfois question de reconsidérer l'histoire, de repenser la place de la femme noire dans la société occidentale, comme va nous le dire Lucy Mouchita. Écrire l'Afrique, c'est aussi dans le dessein de la jouer, de la mettre en scène. Je crois que Nyanguna devait être là, mais il doit être embouté quelque part. Donc, on va commencer par scruter comment le « nous » occulte parfois le « moi » avec le romancier Sami Tiak. Sami Tiak est né au Togo. Il a fait des études de philosophie, donc encore un autre philosophe qui a laissé la philosophie pour être écrivain. Une licence de philosophie dans son pays, et il a enseigné dans son pays pendant 3 ans, au Togo. Il s'est installé en France depuis 1986, où il a obtenu un doctorat de sociologie qu'il a soutenu en 1993 à la Sorbonne 5. Il a publié quelques romans, plusieurs même, dont les personnages et les lieux évoquent souvent cette partie de l'Amérique latine, qui est Hermina en 2003 aux éditions Gallimard, Le paradis des chiots en 2006 chez Mercure de France, Fille de Mexico en 2008 toujours chez Mercure de France, et son dernier roman, Al Capone, le Malien, paru en 2011 toujours au Mercure de France, se passe en revanche entre la Guinée, le Mali et le Cameroun. Donc c'est le retour aussi après l'expérience latino-américaine, le retour en Afrique. Comme essayiste, Sami Tiak a publié La sexualité féminine en Afrique en 1990 et aussi Formation d'une élite paysanne au Burkina Faso en 1995. Mais il a d'autres essais qui sont parus, notamment La couleur de l'écrivain aux éditions de La Cheminante ou l'archéologue et l'ethnologue, voilà, qu'il a fait publier en Afrique, montrant aussi que parfois les écrivains africains, parisiens, peuvent aussi aller publier des œuvres en Afrique. Aujourd'hui, il va intervenir sur un sujet qu'il a intitulé « Le moi, miroir fragmenté du nous ». Sami Tiak. Voilà.
C'est vrai qu'on a parlé de l'Afrique. C'est quand même une chose absolument fascinante pour l'écrivain, mais qui devient inquiétante, pour une bonne raison. Nous sommes quand même dans une sorte de holisme consensuel. Quand on est africain, on parle de l'Afrique. La question qu'on ne se pose pas souvent, c'est pour un écrivain surtout, ça signifierait quoi écrire l'Afrique, écrire un continent? Ça nous place d'emblée dans une extériorité globale. Alors qu'en réalité, l'écrivain tente de montrer peut-être une intériorité, des préférences individuelles qui nous permettent de rejoindre l'universalité de l'humain. Je pense quand même que l'écrivain a un sujet, un unique sujet, qui est l'humain. L'humain peut être idéalement placé dans la théâtralité la plus diverse des sociétés et du monde. Mais l'humain ramené aussi à des invariants universels. pas l'universel professé à partir de la France, du Togo, du Gabon ou de la Chine, mais l'universel en ce sens qu'il nous ramène à quelque chose de très beau qui est en même temps tragique, la condition humaine. Pour moi, c'est quand même ce que la littérature recherche, la condition humaine. Je pars d'un exemple simple quand je parle du moi, qui serait quand même à l'image de ce nous fragmenté. Pendant un bon moment, il a été question pour les littératures africaines, vues par les auteurs comme par les spécialistes, d'être peut-être représentatives des problèmes collectifs. Je crois d'ailleurs que c'est ce que Mongo Betty disait, et c'est ce qui peut-être lui a valu sa plus célèbre erreur quand il s'en prenait à Kamara Lai au moment où il avait publié « L'enfant noir » pour parler de lui Kamara Lai, au moment où il y avait cette nécessité d'élaborer peut-être à partir de la littérature des théories critiques de la société dominante. Il y a un moment, je pense que tout cela est fini, l'écrivain peut partir de soi, partir de ce qu'il veut de n'importe quel lieu. Je me souviens la première fois que j'avais fait cette expérience de lecture exaltante, surtout que l'auteur était une femme. J'ai dit ça, bon, ben, elle n'est pas là. Je n'aurais pas exprimé ça de cette façon-là. C'est Ken Gugul avec le baobab fou. Je crois quand même que toutes les personnes qui l'ont lu et écouté ont peut-être eu la meilleure expérience de la mise en scène de l'individu, tant dans le livre que dans la façon de présenter ce qu'elle écrit. Parce que Ken Gugul, c'est aussi une mise en scène de soi. Elle assume ce qu'elle a écrit sur elle et elle l'assume même en public. À un moment, elle explique très bien pourquoi elle a fini par prendre comme nom de plume Ken Gugul. Elle l'a pris parce que l'éditeur de Néa lui avait dit, avec ce que vous avez écrit, vous ne pouvez pas le signer dans la société sénégalaise de votre propre nom. On voit quand même une sorte de différence quand même entre la littérature parlant de nous, qui est peut-être beaucoup plus facilement accueillie, et la littérature qui témoigne de l'expérience la plus individuelle, qui peut aller parfois dans nos fêlures, dans nos ombres, dans nos obsessions, dans nos fantasmes, qui nous rendent à un moment indignes d'être les représentants d'une société globale dont l'objectif parfois est de montrer au monde ce qu'elle a de plus noble. Or, la littérature est aussi le domaine où on peut montrer la noblesse de l'ordure. Parce que tout ce qui est à l'intérieur de l'humain est pour moi noble, au moins comme sujet. C'est ce qui fait d'ailleurs que, personnellement, je l'ai dit dans ma pratique, il y a à la fois la mouche et puis l'abeille. S'il faut aller dans les ordures, chercher peut-être les mauvaises ordures, les mauvaises odeurs qui nous rendent frères et sœurs par-delà les frontières, j'y vais sans hésiter. Je sais aussi qu'on a besoin de miel. Je me transforme en abeille, j'y vais sans hésiter. Comment l'écrivain, dans ces conditions, avec la liberté que chacun de nous revendique, peut être celui qui écrit un continent ? Avons-nous la capacité d'écrire un continent ? Quelle serait ma meilleure façon d'écrire un continent ? Est-ce moi qui écris un continent ou est-ce le spécialiste qui voit le continent dans ce que j'écris ? Quand on pose les questions de cette manière-là, on revient vraiment aux questions beaucoup plus modestes de littérature par rapport au discours d'un spécialiste. Je crois quand même que le travail que nous faisons, que nous tentons de faire, c'est peut-être de montrer qu'il n'y a pas nécessairement une possibilité pour l'écrivain de partir d'emblée d'une expérience collective. Il y a une obligation, à mon avis, de partir d'une intériorité individuelle, d'une expérience absolument particulière. J'entends par absolument particulière parce que c'est ma façon d'être au monde que je traduis à travers n'importe quel sujet. Or, toute expérience strictement individuelle est forcément collective. C'est peut-être en ça que l'écrivain peut être à la fois le miroir de soi et le miroir des autres. Dans ces démarches-là, on a pas mal d'auteurs qui le font de manière très différente. J'ai cité Ken Bougoul, je peux citer Fatou Diom, je peux citer Alain Mabankou, qui, à un moment, se sont plus ou moins décalés des démarches qu'ont eues nos aînés comme Henri Lopez, avec Le Pleurer Rire, que nous citons même dans nos textes. Mais quand on parle de littérature, je crois quand même que ce n'est pas nécessairement la démarche extérieure que nous imposons qui compte. Pour un écrivain, le plus important, quel que soit l'angle d'entrée, c'est la qualité du traitement. Et assez souvent, avec nos littératures, certains spécialistes oublient cet aspect-là. Ils l'oublient au point de nous mettre dans une sorte de nivellement où chaque produit est de la matière. Or, nous parlons quand même d'une production de valeur esthétique qui permettrait peut-être de hiérarchiser un tout petit peu ces productions-là. Il ne suffit pas nécessairement de dire qu'on parle de l'Afrique, qu'on parle mal ou bien de l'Afrique, mais peut-être parfois de montrer quand même qu'on peut avoir la meilleure intention envers ce sujet-là, tout en étant nettement en deçà de sa propre ambition ou nettement en deçà de ce qu'on appelle la littérature. Ce que je crois, moi, personnellement, c'est qu'à un moment, on ait ces critères littéraires pour évaluer une démarche individuelle avant peut-être de parler du continent qui, assez souvent, sert peut-être d'un paravent où même la médiocrité peut avoir ses heures de bonheur. Je vous remercie.
Merci. Merci, Sami Thiaque. Je crois que vous aurez des problèmes avec les médiocres, hein, parce que là, c'est mal pareil. Non, mais je pense qu'on retient de cela aussi que l'expérience individuelle, comme l'a dit Sami, est forcément collective. Hein, on l'a connue avec Victor Hugo, malheureux qui pense que quand je dis « je », que ça ne le concerne pas. Nous sommes là, la qualité même du traitement de texte. Je pense que parfois le continent est très grand et que c'est parfois une prétention de dire qu'on va le porter tout seul. Dans ce cas, il faut faire peut-être son travail individuel et l'inscrire dans une chaîne qui ferait que les additions d'un travail individuel ici, d'un autre là, eh bien, ces additions feraient que nous avons une cohérence qui pourrait se lire dans un cercle plus collectif. Je pense aussi que Sami a raison lorsqu'il dit que toute expérience individuelle est forcément collective et que quand on écrit, on traduit sa condition humaine, sa façon d'être au monde qu'on est en train de traduire. Peut-être aussi c'est le sens que donne Mouchita, Lucy Mouchita pour son intervention. Lucy Mouchita, qui est une romancière et essayiste, née dans l'actuel Zimbabwe, alors appelée à l'époque Rhodésie du Sud. Elle a grandi dans un village traditionnel à l'époque de l'apartheid. Et en 1986, c'est-à-dire 6 ans après la fin de l'apartheid, Lucy Mouchita est venue vivre en France. Après un court séjour aux États-Unis, elle est rentrée en France de nouveau en 1994. Elle a commencé à écrire son fameux roman Chinangwa, qui est son premier roman, inspiré de son expérience, de la vie réelle d'une vieille dame de son village natal plutôt. Et en 2000, Lucie Moussita, revient encore en France et s'installe à Nancy, où elle enseigne actuellement, entre autres, à la faculté de lettres de Nancy 2. Son livre, que je vous recommande chaudement, si vous ne l'avez pas encore lu, Sinongwa, a été traduit en français et publié par Actes Sud en 2012. J'attends avec impatience son deuxième roman et son intervention aujourd'hui traduira aussi peut-être les questions qui la tracassent, les questions sur lesquelles elle travaille depuis longtemps. Son intervention est intitulée « Africaine d'aujourd'hui, Africaine d'hier » et on salue l'arrivée de Gauze. Voilà. Voilà. Lucie Moussita, une fois que Gauze aura fini de gauzer, comment dire. Donc, je répète, Africaine d'aujourd'hui, Africaine d'hier. Voilà.